Je commence cette communication en reconnaissant que le territoire sur lequel nous rassemblons aujourd'hui pour ce colloque est le territoire traditionnel énoncé des Kanien-Kehaka, autrement connu sous le nom des Mohawks. En accordant de la sorte, comme bien d'autres, une légitimité à une réalité qui n'a aucune existence officielle et en ne problématisant pas ce geste, je place en interaction le réel et l'imaginé, formant de la sorte ce que nombre de théoriciennes et théoriciens nomment un tiers-espace. Le tiers-espace a été approché par plusieurs disciplines académiques, entre autres les études postcoloniales, féministes, queer of color et la géographie, et dénote une interface qui peut prendre la forme d'un mouvement, d'une perspective, d'un lieu, voire d'un corps. Le géographe Edward Soja mentionne que dans le tiers-espace, je cite, « Everything comes together, subjectivity and objectivity, the abstract and the concrete, the real and the imagined. » Ce sont des lieux où la tension, peu importe soit-elle, est reconfigurée en autre chose. Les tiers-espaces assemblent des opposés, amalgament des contraires, et leur permettent de s'exprimer selon d'autres liens. Ce sont les installations du mouvement Occupy dans les lieux publics, c'est l'espace périurbain en France, c'est le réalisme magique dans la littérature, c'est aussi l'entre-deux d'Omi Kababa, mais aussi surtout de l'entre-deux agissant, une hybridité active, une ambivalence signifiante. C'est l'imagination d'une rencontre, là où techniquement, il serait impossible d'y en avoir une. Le tiers-espace, fondamentalement, est une pratique du réel. Dans cette communication, j'évoquerai surtout le tiers-espace en tant que laboratoire, modifiant les paramètres par lesquels nous appréhendons le monde. Je m'intéresserai à ces lieux inédits, ces tiers-espaces qui se forment à Montréal, plus particulièrement ceux qui rendent compte d'un échange entre les images discursives et matérielles de la métropole, et qui forment un écho montréalais. J'entends par là des créations en tout genre qui sont teintées par une expérience de Montréal et qui suggèrent l'existence d'une ville « real and imagined », terme que j'emprunte à Soja, et qui renvoie ici à ce que ces œuvres proposent comme nouvel état du réel. Je ferai une démonstration à partir de ce que j'identifie comme trois tiers-espaces montréalais. Le recueil « Le carnet écarlate » d'Anarchet, une pièce du compositeur de musique contemporaine Simon Henry et les installations poétiques du « Dare Dare ». Au cours de mes recherches doctorales, j'en suis venue à identifier deux traits majeurs du tiers-espace qui me permettent d'en observer la présence. D'abord, cet entre-deux agissant, ce dont je viens d'aborder, et ensuite la reconfiguration. Le tiers-espace est en effet toujours en train de se refaire. Il est donc indéfinissable, tant les conditions de son émergence sont nombreuses et variées, mais il est reconnaissable par la manière dont il fonctionne. J'utiliserai les deux caractéristiques tout juste mentionnées afin d'aborder à tour de rôle chacune de mes œuvres. Donc, dans le carnet écarlate d'Anarchet, c'est un recueil de fragments érotiques lesbiens, écrit par Anarchet, et qui contient quelques dessins aussi épurés que suggestifs de Mélanie Baillargé. Publié chez Remue Ménage, une maison d'édition féministe montréalaise, ce petit ouvrage décrit les ébats sexuels de la narratrice nommée Anne, tout comme l'auteur, à travers mes aphorismes, micro-récits et haïkus. Ce recueil, par l'utilisation de la première personne, de l'homonyme et d'une forme d'écriture métafictionnelle, s'inscrit dans une tradition du genre autofictionnel, le plaçant ainsi d'entrée de jeu sous le signe d'une hybridité. En effet, l'autofiction, je cite, c'est un mode de passage entre l'autobiographie et la fiction. C'est un mouvement en deux pôles, le factuel et le fictionnel, conçu comme contraire. La description de l'auteur sur la quatrième de couverture du recueil resserre la lecture de l'œuvre autour de ce mouvement. Je cite, « Mais qui est donc Anarchet, cet incorrigible pornographe qui sévit depuis si longtemps, tapis dans l'ombre, profitant de chaque occasion pour corrompre notre belle jeunesse? Ses lectrices l'ignorent, la NSA est dans le brouillard, Dieu le Père lui-même se perd en conjecture, seule sa coiffeuse le sait. » Nous sommes donc en présence d'un jeu qui se construit dans l'oscillation entre l'anonymat et la célébrité de l'auteur. En effet, son nom, Anarchet, est en fait un pseudonyme qui joue avec la sonorité du mot anarchiste, une idéologie qu'elle affectionne. Archer réfère aussi à une personnalité connue du web, portant le même nom. Celle-ci publie depuis plus d'une décennie divers textes érotiques, fictifs et de réflexion. La frontière entre l'effet autobiographique et la fiction, dans le carnet écarlate, est aussi rendue indistincte par la mise en scène de la lecture de l'œuvre par une amante de la narratrice-auteur, qui en discute parfois avec elle. Lorsque de tels échanges se produisent, la lectrice doute de la véracité de ses nombreuses expériences. Je cite, elle referme le carnet écarlate, puis me siffle sur un ton moralisateur. « Tu te vantes toujours d'être perverse, mais en réalité, tu fais rien que mentir et raconter des fredaines imaginaires. » Satisfaite de m'en être sortie à si bon compte, je prends une bonne respiration et lui réponds « C'est ce qu'on appelle un vice de fabrication. » Dans ce passage, on voit la lectrice doute de la narratrice, et celle-ci entretient son doute plutôt qu'à chercher à lui confirmer si c'est dans l'erreur ou non. Également, la narratrice nous partage ses ébats comme des expériences très simples du quotidien, voire des anecdotes, que ce soit en adoptant un ton humoristique, je cite, Pauline est charmante, sexy, amoureuse, mais je n'arrive pas à supporter de l'entendre jouir avec l'accent de la Beauce. Ou mélancolique, je cite encore, « Quand tu partiras, il n'y aura plus de lumière, tu seras invisible, j'aurai perdu la vue, on m'aura crevé les yeux. » Ce double ton, qui s'enchevêtre avec une facilité déconcertante, a pour effet de déstabiliser lectrices et lecteurs en cassant l'effet érotique. Où il y a, je cite, « ambivalence in the act of interpretation », selon Baba, il y a hybridité, donc tiers-espace. Le rapport à l'autre, dans ce recueil d'Anarchet, s'est construit de manière à le ou la déboussoler, en proposant de nouveaux codes avec lesquels percevoir le réel. Cette double posture narrative, amalgamant le factuel et le fictionnel, tout comme ces doubles tons humoristiques et mélancoliques, c'est ça dans une forme pornographique, renforçant l'interaction entre le real and imagined, puisque valorisant le recommencement toujours différent d'une même histoire. La forme du carnet se base en effet sur la répétition toujours différente de micro-récits, dont le point commun est la sexualité. Cette manière d'écrire formule sans cesse des alternatives, et cela aussi au même moment. En effet, les fragments sont narrés au présent, ce qui cause un effet d'ubiguïté. Anne se retrouve dans toutes les histoires, et celle-ci se passe sur un même mode temporel. Archet fournit aussi de la sorte à ses lectrices la possibilité de s'identifier à l'un ou l'autre des récits. D'ailleurs, pratiquement chacun d'eux met en scène une amante au nom différent. J'en ai recensé au minimum une cinquantaine. Par ces répétitions différentes, chaque récit devient unique tout en revoyant un tout à une histoire plus globale. Un fragment montre bien ceci en faisant un clin d'œil au printemps érable. Je cite « À la manif, je crie « fuck la police » en zyotant l'agent mignonne comme tout pour qui j'exposerais volontiers mon flanc à la matraque. » Donc, il y a toujours ce processus de reconfiguration du réel qui est à l'œuvre. Ce qui est important, en fait, dans le carnet écarlate, c'est pas tant le carnet écarlate. D'ailleurs, la narratrice mentionne qu'avant celui-ci, je cite, « il y a eu le carnet vert, et le noir, et le bleu. Il y a eu trois roses avant cela, et un jaune, que j'ai échappé dans la baignoire. Avant, quelques violets, deux oranges. » Ce qui est très significatif, réside plutôt dans son abondance et sa variation dans les alternatives offertes, ainsi que dans la concentration du réel autour du sexuel. Je cite, « je ne veux pas une vie sexuelle plus épanouie, je veux que toute ma vie soit sexuelle. » Mais la narratrice-auteur anticipe bien adroitement la critique que lui formule son amante au sujet de son obsession de tout centraliser de la sorte le réel autour d'une esthétique sexuelle qui serait en somme redondante et stérile. À l'époque d'une intéressante comparaison, je cite, « Tous ces textes, bordel, qu'est-ce qu'il peut y en avoir? Et ça ne parle que de sexe page après page après page. Quand même, n'as-tu pas fait le tour du cul et du nombril sous toutes ces coutures? Tu n'as pas assez de parler que de ce seul et unique sujet? » Est-ce qu'on reproche à José Distasio de parler cuisine pendant tout ce temps? Elle a toujours de nouvelles recettes à proposer. C'est une fine gastronome. Il se trouve que moi aussi, je ne manque pas de recettes. Je suis une fine nymphomane. Alors ça, c'était pour le carnet écarlate. Je passe à mon deuxième objet. Une pièce de Simon Henry. Simon Henry est un compositeur de musique contemporaine, habitant Montréal, qui est défini également comme artiste sonore. Multidisciplinaire dans ses pratiques, Henri se laisse tenter par l'interaction entre la poésie, la musique et le dessin, de manière à recoder l'univers sensible qui l'entoure pour lui insuffler un nouvel état d'être. Je m'attarderai ici à sa pièce de musique nommée « Intranquillité 5 », alors que nous maintenions près de nos bouches diamantées, 3 points de suspension. C'est une pièce qui fait partie d'une série de 5, basée entre autres sur la transcription musicale. Nous verrons d'abord comment Henri le performe dans un extrait de sa pièce. Ça va durer une petite minute. Il a présenté lui-même sa pièce, entre autres, à la BNQ. Je ne sais plus si c'était dans le cadre de quoi. Il y avait Nicole Brossard, il travaillait avec elle un peu. Et puis, j'ai la pièce aussi au niveau papier. Fait qu'une transcription musicale, en fait, c'est il transforme la forme de notation musicale usuelle et en fait des dessins. Et c'est comme ça que ça devient la partition. Et c'est ça qu'il faut lire. Puis il y a une espèce de curseur quand on voit le vidéo qui passe. À travers les dessins, une espèce de curseur vertical, alors que les dessins passent comme ça à l'horizontale. Et puis, Simon joue sa musique comme ça. Puis cette pièce-là est pour flûte bahut. Une flûte bahut, c'est un instrument avant chinois. Et à travers donc, la musique, le dessin, il y a aussi de la poésie. À un moment donné, il se met aussi à parler à travers ça. Puis cette poésie qui est tirée de un recueil de poésie qui a été paru aux éditions de la Tournure à Montréal. Alors, il y a toujours cette interaction entre différents modes, comme ça, c'est très intéressant.
Est-ce qu'on peut faire circuler le livre?
Oui, oui, c'est
oui,
ça.
Oui, vas-y, en Florence. On va le mettre à Rachel.
Oui, tu peux... Oui, alors je vais commencer, je vais continuer en même temps. Alors, je débute tout de suite mon analyse avec le titre « Intranquillité ». Il n'est pas question de tranquillité ni de chaos, mais d'un échange entre deux réels ordinairement contraires, formant une intranquillité. C'est très significatif. Le deuxième titre, « Alors que nous maintenions près de nos bouches diamantées », est un extrait du texte, comme je viens de dire, qui accompagne cette composition particulière. C'est l'un des nombreux vers de Henri qui paraissent dans cette composition, qui revient de son recueil de poésie. Texte, dessin et musique dans cette pièce s'informent les uns les autres sans s'accaparer l'expression ultime du réel. Il y a ainsi formation d'un nouveau langage basé sur l'échange plutôt que l'opposition, l'action plutôt que la réaction. C'est un principe transformateur qui est radicalement à l'œuvre dans la superposition du musical, du pictural et du poétique. Cette transcription musicale participe aussi de cet entre-deux agissant, un des traits du tiers-espace. Il s'agit de transformer une composition en dessin qui confie alors à des musiciens et musiciennes qui doivent, à partir de cette forme, lire puis jouer la pièce. Sur son site Internet, il explique qu'il brouille les notions de composition-improvisation. Je cite, « La partition a été conçue comme une mise en situation poétique très précise visant à mettre en valeur ce qui m'apparaît comme étant l'essence même de la relation compositeur-interprète. » La transformation d'une idée artistique en son, chargée d'expériences de vie. Cela interpelle en même temps la pensée d'Hugues Bazin sur le tiers-espace, pour qui celui-ci constitue une manière de politiser l'expérience humaine de l'espace, de relier, je cite, « le sensible à l'intelligible ». En déplaçant maintenant mon analyse à un niveau plus biographique, Henri me raconte que son rapport à la musique renvoie à un « safe place » de son enfance, qui se façonne depuis un rapport qui ne semble pas s'opposer entre l'organique et le technologique. Il me parle dans le même élan du bruit du vent dans les feuilles des saules, de l'eau qui s'écoule dans la rivière des prairies et de la circulation automobile sur l'autoroute. « C'est ce que j'ai dans l'oreille », me dit-il, pour créer. Son rapport à la création et à Montréal émerge aussi d'un échange plus ou moins cohérent entre cultures par voie radicalement étrangères l'une à l'autre. Il me confie, je le cite, « Mon Montréal sonore, c'est Jerry Boulet d'une part et Oum Kalthoum de l'autre. C'est la musique pop états-unienne que les autres écoutent. C'est le son des fêtes de familles égyptiennes bordéliques et surpeuplées dans un minuscule appartement près du métro Fabre. » Cette technique de transposition mentionnée précédemment a notamment pour effet que ces pièces ne peuvent jamais être interprétées de la même manière. Nous sommes au bien et au-delà des différences de style entre interprètes. Les pièces d'Henri sont autonomes et entretiennent leur propre principe de variance, leur propre façon d'intégrer le réel. Ils s'en servent pour reprogrammer un choc culturel. Il m'explique que c'est, je cite, « briser les mythes de mes différentes communautés d'appartenance, essentiellement dans un sens positif, afin de créer de nouveaux mythes plus ancrés dans leur réelle relation. » Les musiciens et musiciennes qui jouent donc ces pièces, dont « Étranquillité 5 », en viennent à partager cette déconstruction et reconstruction qui naît en termes de mythes. Oum Kalthoum, les fêtes égyptiennes bordéliques, Jerry Boulet et la pop états-unienne en viennent à passer à travers une chaîne de transformation. C'est un passé qui, à travers ce passage dans l'acte d'imaginer des autres, en vient à se libérer. Bazin, que j'ai cité un peu plus tôt, mentionne justement que le tiers-espace est une capacité à faire du lien. Et il me semble que Simon Henri cherche d'abord et avant tout à susciter cette capacité dans sa création. Finalement, mon troisième et dernier objet, le Derrière, je vais revenir à ma... Le Derrière est un centre d'artistes autogéré, doté d'un abri mobile, situé dans l'espace entre les rues Atwater, Green et Doré, tout juste à côté du marché Atwater. Il fut fondé en 1985 à Montréal, sur la rue Laurier, par Sylvie Coton, Diane Tremblay et Claire Bouc, trois artistes multidisciplinaires, avec un mandat d'un an pour diffuser l'art des jeunes de 18 à 35 ans. Mais le voilà toujours bien vivant, 30 ans plus tard, et également bien transformé. Le centre a progressivement repensé sa principale raison d'être au fil des ans, de manière à percevoir la diffusion au niveau de son intégration directe dans l'espace public. Je m'attends ici à son volet de poésie. Il est demandé au public de participer à un concours en proposant jusqu'à 10 courtes de phrases qui pourront être affichées sur une enseigne lumineuse devant le centre. Ce qui est intéressant de ce volet d'écriture publique réside dans la rencontre du publicitaire et du poétique qu'il réalise. La culture capitaliste et médiatique force leur message sur l'espace public et donc au regard des passantes et passants à journée longue. Le projet poétique du Dare Dares vise en quelque sorte l'émulation de ce procédé agressif en proposant une visibilité constante et une dissémination ultra-efficace d'un message. Je cite depuis leur site Internet, « Les textes sont ainsi rendus visibles le jour et la nuit pour des milliers de passants qui transitent près de l'abri mobile du centre d'artistes. » Cette installation du Dare Dare, nous marquons sur les images, puise dans les codes publicitaires de l'événementiel et du sensationnel, avec ses couleurs vives, ses lumières, sa grosse flèche rouge tape à l'œil, pour y introduire du poétique. Et celui-ci fait en quelque sorte sauter la texture du réel, au sens où il en présente un versant clairement imaginé, en utilisant ses propres codes contre lui pour le déranger. Emma Schutte, nous éclairant sur la pensée de Baba, affirme que, je cite, « The third space represents a strategy of enunciation that disrupts, interrupts and dislocates the dominant discursive construction of us and them. » Donc, on lit bien l'enseigne ici par automatisme, certes, dans un certain élan conditionnel à la consommation, mais celle-ci est brutalement arrêtée car nous sommes en présence d'un mode poétique. La visibilité des vers de l'installation poétique interrompt la nonchalance des gens en regard des discours dressés tout autour d'elles et d'eux dans l'espace public et les invite à questionner la saturation du réel par un même mode discursif. Également, le poétique, par sa présence, fait réfléchir étonnamment sur son absence ordinaire du paysage quotidien. Son insertion ici dans l'espace public interrompt la bonne marche du 9 à 5 en proposant un espace réflexif, créatif et communautaire plutôt que passant et capitaliste. Le Dare Dare a la volonté de donner plus d'ampleur à ce qu'il appelle, sur son site internet, le geste d'or. Son volet poétique s'inscrit directement dans cette perspective d'occupation de l'espace public en y intervenant directement. Étant donné que l'abri du Dare Dare est mobile, il peut être relocalisé dans l'espace montréalais, et les phrases exposées peuvent ainsi susciter des réactions nombreuses et diversifiées selon le quartier d'accueil. Aussi, puisque le principe organisationnel du centre est celui de l'autogestion, il rend possible de s'intéresser à des besoins locaux, bien ancrés dans l'actualité montréalaise et les intérêts du groupe de gestion du moment. Les phrases exposées sur l'enseigne sont aussi appelées à changer à chaque semaine et ne sont jamais présentées pour un deuxième tour. Toutes ces actualisations aménagent un tiers espace. Je cite, « If that third space, though unrepresentable in itself, which constitutes the discursive condition of enunciation, that ensure that meaning and symbols of culture have no primordial unity and fixity, then even the same sign can be appropriated, translated, rehistoricized, and read anew. » Cette poésie publique fait également résonner une intéressante polyphonie qui participe à entretenir une reconfiguration constante de l'œuvre. Artistes émérites ou émergents peuvent accéder autant à la parole et à la visite publique. Ainsi, par cette communication, je tentais d'attirer le regard vers une manière de créer de certains artistes de Montréal qui procurent un énorme potentiel au réel en lui faisant côtoyer plusieurs versants imaginés. Les trois œuvres montrées ici ne représentent pas Montréal, mais la fait résonner au travers d'elles. Je souhaitais aussi, en les plaçant en lumière, plaider en faveur d'une attention plus accrue sur ce type d'ouvrages artistiques qui font foisonner de nouvelles possibilités existentielles à la manière d'un cheval de Troie, c'est-à-dire qui développe des tiers-espaces infiltrant le réel, comme si nous pouvions toutes et toutes véritablement agir sur lui, comme s'il pouvait être réellement transformé en cognant simplement à sa porte avec un immense et bien sûr très innocent cheval de bois.
Merci Marie-Ève.